Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour vous présenter ce journal de la radio des Nations Unies. Au menu, réunion de haut niveau sur la culture de la paix, recul de la mortalité infantile, le PAM et l'UNICEF renforcent leurs efforts contre la malnutrition aiguë au Soudan du Sud, nouveau recul de cas d'Ebola, en dossier nous reviendrons sur le dernier rapport des droits de l'homme sur l'Ukraine, enfin la déforestation mondiale ralentit, les forêts sont mieux gérées. Un forum de haut niveau sur la culture de la paix se déroule ce mercredi au siège des Nations Unies à New York. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général des Nations Unies a indiqué que cette réunion consistait à évoquer une réalité particulièrement dure et violente ces temps derniers. Ban Ki-moon a rappelé que la crise syrienne est devenue la pire crise humanitaire actuelle, suivie de près par celle de l'Irak. Le chef de l'ONU a indiqué que la feuille de route devait mener à une déclaration ainsi qu'un programme d'action pour promouvoir la culture de la paix. En référence au Mahatma Gandhi, Ban Ki-moon a expliqué que seul un mouvement pacifique pourrait changer le cours de l'histoire.
La réunion aujourd'hui porte sur de dures vérités dans notre monde, où beaucoup souffrent et meurent pour cause d'atrocités et de crimes violents. La Syrie est la pire crise humanitaire actuelle. En Syrie, en Irak et ailleurs, nous faisons de notre mieux pour sauver des vies. Notre responsabilité est collective et impérative. Nous devons protéger les civils. L'impossibilité de mettre fin à la souffrance en Syrie est visible dans les camps et foyers en Jordanie, au Liban et en Turquie, mais également avec la crise déchirante des migrants en Europe. Notre monde change vite. Il en va de même pour les forces qui poussent à la division et à la haine.
La mortalité infantile dans le monde a été divisée par deux en un quart de siècle, selon un rapport de l'UNICEF, de l'OMS et de la Banque mondiale publié ce mercredi. Le nombre de décès d'enfants de moins de 5 ans est ainsi tombé à 5,9 millions cette année, contre 12,7 millions en 1990. Toutefois, les agences onusiennes soulignent que l'objectif de l'ONU de réduire la mortalité infantile de deux tiers entre 1990 et 2015 ne pourra être atteint. Sur les raisons de la réduction de la mortalité infantile, on écoute Flavia Bustreo, directrice générale adjointe à l'OMS pour la santé de la famille, des femmes et des enfants.
On a vu des investissements très importants sur la santé de la femme et de l'enfant, à niveau de beaucoup de pays, surtout des pays de l'Afrique. Et on a vu surtout les investissements dans les systèmes de santé, pour les opérateurs de santé, et aussi des investissements sur l'éducation de la femme. Ce sont été vraiment des investissements très importants, sur l'infrastructure, et aussi des investissements sur la possibilité d'avoir couverture sanitaire. Donc ces investissements ont été très très importants. Dans les pays où ces investissements ont été faits, on a vu vraiment la réduction de cette mortalité.
Au Soudan du Sud, l'UNICEF et le Programme alimentaire mondial intensifient leurs efforts pour réduire l'ampleur de la malnutrition, qui est un problème chronique dans le pays. Par l'intermédiaire d'un programme conjoint, les deux agences espèrent ainsi aider plus de 2 millions de personnes d'ici au mois de mai 2016. Une initiative similaire lancée l'an dernier avait déjà permis d'éviter la famine en venant en aide à plus d'un million de personnes. Isabelle Dupuis.
Au Soudan du Sud, un enfant commence à souffrir de malnutrition sévère toutes les deux minutes. Et le taux global de malnutrition aiguë demeure alarmant, dépassant de loin le seuil d'urgence de 15% dans la plupart du pays. Selon le PAM et l'UNICEF, 250 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë. En outre, depuis le mois d'avril, des combats intenses ont contraint des centaines de milliers de personnes à se réfugier dans la brousse ou les marécages, où ils sont coupés de tout accès à l'aide humanitaire. Le programme lancé aujourd'hui par le PAM et l'UNICEF permettra de déployer des équipes conjointes de réaction rapide dans les zones frappées par le conflit, tout en renforçant l'aide dans les États épargnés par les combats. Il vise aussi à renforcer la capacité des partenaires locaux à traiter la malnutrition, tout en s'attaquant aux racines du problème, notamment la pauvreté, l'accès à l'eau et à l'assainissement, et les pratiques liées à l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants.
Ebola est de mieux en mieux contrôlé malgré la saison des pluies qui rend encore plus complexe la surveillance de l'épidémie. De retour d'une visite en Afrique de l'Ouest, le représentant spécial du directeur général de l'OMS pour la réponse à Ebola, le docteur Bruce Aylward, s'est dit encouragé par les dernières nouvelles sur le terrain avec de moins en moins de cas. Mais la prudence reste toujours de mise en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Alpha Diallo.
Le combat contre Ebola continue même s'il y a de moins en moins de cas. Lors d'un point de presse mercredi à Genève, l'Organisation mondiale de la santé s'est tout de même réjouie que le Libéria soit à nouveau exempt de toute transmission du virus. Une semaine sans nouveau cas d'Ebola dans la préfecture voisine de Forêt-Cariya en Guinée, alors que la capitale Sierra Leoneuse n'a pas recensé de malades pendant 3 semaines. Dr Bruce Elward, représentant spécial du directeur général de l'OMS pour la réponse à Ebola, note que ces derniers chiffres sont un grand espoir pour finir le travail. Mais pour atteindre 0 cas, l'OMS entend maintenir la surveillance en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Il s'agit d'encadrer et suivre les survivants alors que le virus peut persister pendant plusieurs mois dans le corps humain. Par ailleurs, les Nations Unies s'apprêtent à lancer la phase 3 de ces opérations. Objectif, maintenir les capacités de surveillance et de réponse des équipes de terrain et contrôler toute menace de réapparition de la maladie liée à la persistance du virus chez les survivants. Une façon de rappeler que des risques de réapparition de la maladie subsistent encore au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone, surtout en cette période de saison des pluies.
En République démocratique du Congo, le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU à Bukavu a tenu un atelier de 2 jours qui vise à identifier des potentiels scénarios pour 2016 afin de pouvoir anticiper le volume de la réponse humanitaire qui sera requise au cours de l'année dans la province du Sud Kivu, dont notamment les actions à retenir pour couvrir les besoins des personnes vulnérables, y compris les déplacés et réfugiés burundais actuellement hébergés en territoire de Fizi en RDC. On écoute Marie-France White, chef de bureau intérimaire d'Ocha au Sud Kivu, au micro de Michel Sirimouami de Radio Kapi.
Une des priorités majeures, comme cette année, ça va être vraiment la réponse aux déplacements et aux personnes victimes de violations et qui ont dû se déplacer. Il y a aussi les victimes des épidémies et également les victimes de la malnutrition. On regarde également les catastrophes naturelles comme une des causes de besoins humanitaires dans la province. Au niveau du cours, c'est une réflexion qui est encore en cours. D'après nos estimations, on a un gap d'environ 8 millions de dollars pour la réponse aux personnes les plus vulnérables au Sud Kivu. Au niveau des priorités pour l'an prochain, on regarde en particulier les événements possibles qui pourraient affecter les besoins humanitaires au Sud Kivu, notamment la réponse continue pour les réfugiés burundais et également le processus électoral qui pourrait déclencher des nouveaux besoins humanitaires.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Selon un nouveau rapport publié mardi à Genève par le commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, 8000 personnes ont perdu la vie en Ukraine depuis le début des hostilités en avril 2014. Le document montre également des cas d'enlèvement, d'exécution, de torture, de mauvais traitements, violences sexuelles, travail forcé, extorsion dans les territoires contrôlés par les rebelles. Le point avec Gianni Magazzini du Haut Commissariat aux droits de l'homme au micro d'Alpha Diallo.
On a sans doute une situation qui est très difficile parce que d'un côté, on voit que le gouvernement de l'Ukraine fait le maximum pour la mise en œuvre des recommandations de Minsk au niveau de la réforme constitutionnelle, aussi le passage des lois qui sont en ligne avec les demandes des Nations Unies vis-à-vis les institutions de l'État des droits, vis-à-vis les judiciaires, vis-à-vis des autres aspects importants pour le respect des droits de l'homme en Ukraine. Et de l'autre côté, on voit le renforcement des structures parallèles qui sont plutôt en ligne avec la législation et les procédures de la Fédération de la Russie et qui ne sont pas en ligne avec la constitution de l'Ukraine ou bien les accords de Minsk.
Et le rapport note que les pertes civiles ont presque doublé pour la période mai-août. Pourtant, on est en période de cessez-le-feu. Comment l'expliquez-vous?
La situation est difficile dans le sens que si on regarde dès le début des hostilités, on a presque maintenant 8000 personnes qui ont été tuées et plus de 17000 blessées. Je pense que dans les derniers 3 mois, il y a eu une augmentation de la population civile qui a été affectée par les conflits, surtout dans l'Est. On espère que la situation s'améliore. Je répète, ça peut améliorer s'il y a la fin des forces de l'extérieur qui sont en train de soutenir les efforts au niveau des groupes armés dans les zones de Donetsk et Luhansk qui sont contrôlées par les groupes armés et pas par le gouvernement de l'Ukraine. Je pense que limiter l'accès des rebelles, des étrangers, des ammunitions et des systèmes de combat très sophistiqués, c'est la clé pour essayer de faire la mise en œuvre de Minsk et donner la possibilité de rétablir l'état des droits et un minimum de protection pour les civils et pour les autres 3 millions de la population ukrainienne qui est maintenant sous le contrôle des groupes armés. Groupes armés qui ont aussi la responsabilité de faire appliquer les normes internationales des droits de l'homme.
À cet égard, le rapport note que les groupes rebelles sont accusés de cas de torture et de violence sexuelle et du côté des services de sécurité ukrainiennes sont accusés de détention arbitraire. Est-ce le résultat d'une forme de culture d'impunité présentement dans l'Est de l'Ukraine ?
Bon, il y a sans doute l'impunité, il y a un manque de respect des normes, des procédures, de la conformité avec l'état des droits. Clairement, on est sujet à des situations où les personnes armées peuvent imposer leur volonté comme elles veulent. Il n'y a pas de respect des droits de l'homme, il n'y a pas de respect des institutions qui sont en train maintenant d'être établies, mais qui ne sont pas en ligne avec la constitution de l'Ukraine ou même avec les éléments clés des accords de Minsk.
Vous insistez beaucoup sur les accords de Minsk pour sauver les civils, mais quelque part, quand vous soulignez aussi la poursuite des combattants étrangers, la fourniture d'armes par la Russie, est-ce quelque part vous redoutez une violation des accords de Minsk ?
Sans doute, au moment actuel, il y a des violations, il y a encore beaucoup à faire, mais c'est l'espoir pour améliorer la situation des droits de l'homme et le respect du droit humanitaire, c'est de faire le maximum pour la mise en œuvre de tous les éléments clés de Minsk et après pour le rétablissement de l'état des droits et du respect des normes internationales des droits de l'homme et du droit humanitaire.
Les forêts du monde continuent à se rétrécir car avec l'accroissement démographique, davantage de terres forestières sont converties à l'agriculture et à d'autres utilisations. Mais au cours des 25 dernières années, le taux de déforestation nette mondiale a ralenti de plus de 50%. C'est ce qu'indique un rapport de la FAO diffusé cette semaine au Congrès forestier mondial qui se tient à Durban en Afrique du Sud. Pour en savoir plus, Muriel Sarr a joint Dominique Reb, chef d'équipe forestière sociale au siège de la FAO.
Le lancement de ce rapport est toujours très attendu parce qu'il nous donne un état des lieux, disons, lors des 5 dernières années. La grande nouvelle qu'on peut dire, c'est que le taux de déboisement net dans les forêts du monde a chuté de 50% lors de ces 25 dernières années. D'autre part, la gestion durable des forêts n'a jamais suscité autant d'intérêt. Donc les États, les gouvernements sont de plus en plus attentifs à la gestion durable de leurs forêts. Et on attribue aussi de plus en plus de forêts pour la conservation et aussi pour la désignation de forêts permanentes, ainsi qu'on s'attache à avoir une meilleure implication des populations. En 1990, la planète avait compté pour environ 4,128 milliards d'hectares de forêts. Et en 2015, donc cette année, nous n'en avons plus que 3,999 milliards, donc un petit peu moins de 4 milliards. Donc on voit qu'il y a une perte nette d'environ 129 millions d'hectares par an, qui correspond à un taux annuel d'environ moins 0,13%. Il y a un net ralentissement donc, de ce taux de déboisement qui est passé donc, de moins 0,18% dans les années 90 à moins 0,8% ces 5 dernières années. Où se passe le déboisement ? En général, ce sont dans les pays tropicaux, surtout en Amérique du Sud et en Afrique. Dans ces régions, il y a effectivement encore du travail à faire. Ce qui est intéressant au niveau sud de ce rapport, ce qu'il indique, c'est que finalement, la majorité des forêts sont naturelles, donc ce ne sont pas des plantations. Au niveau de la production, de la consommation de bois, la moitié, 49%, est utilisée comme bois de feu. Les gouvernements consacrent 13% de surface forestière à la conservation, dont de la biodiversité, ce qui est très important, et 25% sont consacrés à la conservation du sol et de l'eau. Comme on sait, les forêts sont très importantes pour le maintien de ces écosystèmes.
Quelles sont les tendances d'une région à l'autre ?
Il y a encore deux régions qui sont un peu problématiques, donc l'Amérique du Sud et l'Afrique, où le taux de déboisement continue de progresser. Donc là, il va falloir donc, effectivement travailler sur les politiques forestières, une meilleure implication des populations pour renverser cette tendance. Dans les zones de l'hémisphère nord, la situation est stable. Au contraire, par exemple, dans la région européenne, on a un accroissement des superficies forestières. Donc là, c'est relativement sous contrôle.
Quel est le lien entre le thème de cette année, les forêts et les populations, investir dans un avenir durable, et le travail de la FAO dans ce domaine ?
Nous sommes, je crois, aujourd'hui tous conscients que les forêts jouent un rôle très important dans la régulation du climat et qu'on ne peut pas s'en passer. Au contraire, donc il faut améliorer la capacité des forêts à absorber le carbone pour pouvoir diminuer l'impact du réchauffement climatique.
Pensez-vous que l'on accorde assez d'importance au secteur dans le cadre de la lutte contre le changement climatique ?
Je pense qu'effectivement, donc, il y a un programme très important qui a été mis en œuvre, donc, qui s'appelle le RED+, qui vise à mettre en place des moyens financiers pour encourager les gouvernements à maintenir leurs forêts et à les améliorer. Donc ça, c'est déjà un effort très important et je pense qu'il devrait aboutir. Ceci dit, il y a aussi encore beaucoup de travail à faire au niveau encore des politiques forestières, du ralentissement de la déforestation, donc du déboisement. Le secteur forestier a besoin encore de travailler pour que justement les populations locales soient mieux impliquées dans la gestion, ce qui impliquera une meilleure meilleure gestion aussi des forêts et des ressources naturelles.
Qu'attendez-vous de cet événement ?
Je pense que tous les forestiers du monde attendent, à travers le Congrès forestier international et mondial, c'est de mettre en valeur, de rendre visible la forêt, donc dans le public en général, à l'échelle de la planète, et de faire en sorte que les gens prennent conscience de l'importance des forêts et que tout le monde doit participer. Ce n'est pas simplement le travail des forestiers, évidemment, mais c'est toute la société doit participer au maintien de cette ressource absolument indispensable.
Et c'est avec Dominique Reb que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.